Si elles sont là, c'est qu'elles ont un rôle. Les émotions sont présentes dans notre vie. Si elles n'étaient plus vraiment intéressantes, elles auraient disparu. Et on sait en psychologie que même la tristesse peut être très intéressante pour se focaliser sur certains éléments dans l'environnement. La colère est une émotion fort importante puisqu'elle permet de se révolter, de remarquer une injustice. Parce que si vous n'êtes pas en colère face à une injustice, si vous êtes heureux selon les bons principes de la psychologie positive, vous n'allez pas réagir, vous n'allez pas protester. Et donc vous allez accepter parfois des conditions de vie ou de travail peut-être éreintantes parce que on vous... mais comme ça dans une position, mais je suis heureux, donc j'accepte tout. Donc brimer un peu les émotions négatives, ça rend un peu des personnes très, qui sont très conciliantes, qui acceptent tout sans protester. Donc c'est fort important, et surtout que les émotions négatives, elles peuvent avoir ce qu'on appelle un rôle instrumental, donc les utiliser pour avoir une action sur son environnement. Parce que si par exemple vous avez remarqué donc quelque chose qui ne vous plaisait pas, donc vous êtes un peu en colère, si évidemment cette émotion tombe quelque part, ben, si vous confrontez la personne plus tard alors que vous n'êtes plus en colère, vous ne serez peut-être pas dans la confrontation. Or, la valeur un peu comme ça de l'émotion permet justement d'être dans un état qui vous permet alors de confronter la personne qui vous a un peu chamboulé le matin, par exemple. Quoi.
Idem pour la peur, qui est un mécanisme naturel de défense.
C'est évident.
Mais ce que la psychologie positive dit aussi, et là c'est insidieux, c'est finalement les émotions négatives comme la peur et la colère, elles ont une raison d'être, mais il ne faut pas les laisser s'installer définitivement. D'abord, personne n'a envie qu'effectivement de vivre dans la peur et la colère constamment. Mais ce que la psychologie positive ne fait pas, ce que l'intelligence émotionnelle amène beaucoup plus, je trouve, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, quel est le mécanisme qui déclenche cette peur ou cette colère, et plutôt de travailler alors là-dessus pour accompagner cette peur et cette colère.
Oui, mais disons que c'est un peu simpliste de se dire on va mettre des émotions positives, on va favoriser les émotions positives des personnes, avec comme conséquence que les émotions négatives vont disparaître.
Oui.
Ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'elles coexistent en même temps. Ce n'est pas comme deux liquides dans un verre qu'on peut... si vous mettez, en effet, un verre rempli d'eau, ben, il n'y aura pas de place pour mettre autre chose. Oui. Mais ici, elles coexistent, et c'est tout à fait normal qu'elles sont là. Et en effet, dans les modèles d'intelligence émotionnelle un peu rigoureux, ben, on parle, oui, la perception des émotions, c'est important, l'expression, c'est important, aussi bien négative que positive. Dans l'intelligence émotionnelle, on ne dit jamais qu'il faut brimer les émotions négatives, qu'elles ne doivent pas sortir. Non, elles sont là, il faut les comprendre, trouver l'origine, évidemment, et surtout réguler ces émotions. Et c'est ça le plus important, quoi. Et alors, en effet, si la psychologie positive se sert des théories de régulation des émotions sur le modèle de Gross, par exemple, ça a un peu plus de sens. Et ça, c'est ce que Jordi Coatbac l'a proposé notamment récemment dans un gros papier qui... justement, prétendait que les bases, finalement, de ces actions intentionnelles, ces exercices de psychologie positive, ben, au niveau théorique, ben, on peut retrouver des processus liés à la régulation des émotions.
Il y a Myriam qui a réagi par rapport à une chose qu'on a dite, on a parlé des 50% de génétique, hein, quand on parlait de la pipaille qui avait été proposée, oui. Qui disait que notre bonheur ou notre capacité au bien-être dépend à 50% de génétique. Elle dit que, comment? Pourquoi? C'est quoi les éléments? Alors vous ne l'expliquez pas dans le livre, je ne sais pas si vous voulez...
Disons que c'est tout simplement des études où on compare toujours en génétique, donc des jumeaux monozygotes et des jumeaux dizygotes. Donc identique et fraternelle, et on se rend compte que la ressemblance donc sur les jumeaux monozygotes est beaucoup plus importante que les dizygotes, et alors on fait la différence entre les deux.
Donc là aussi, au niveau des chiffres, on peut être un peu circonspect et se dire ça vient d'où, ça n'est
donc
pas
là, les 50% sont plus ou moins rigoureux, parce que, mais ça veut dire, c'est pas, évidemment, il n'y a pas le gène du bonheur,
non.
Bien entendu. Mais disons qu'il y a des facteurs génétiques qui sont, bon, notamment, il y a la personnalité aussi.
Oui. Non, je vous interromps parce qu'on va être interrompu par la pub. Et je
ne voudrais
justement pas que, professeur aussi, je ne l'ai pas encore signalé, à la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation de l'Université de Liège. Vous ne jetez pas tout, hein, de la psychologie positive, comme je le disais. Ça n'est pas, jetons tout et mettons tout de côté, c'est mauvais. C'est plutôt revoyons un peu les bases, messieurs, et concentrons-nous sur ce qui a déjà été vérifié ou pas. Et si ça n'est pas vérifié, essayons de le vérifier.
Oui. Mais c'est surtout ça. Donc c'est en effet, maintenant, je crois que la tâche, normalement, des chercheurs en psychologie positive, c'est de trouver des bases théoriques sérieuses. Et le problème, c'est que ça va être compliqué parce que ça a été vraiment fait dans l'autre sens. D'habitude, on réalise des études pour construire des théories, et ici, ça a été un peu dans l'autre sens, quoi. Plein d'applications sont sorties avant même qu'on vérifie si elles tiennent la route. Mm-hmm. Donc c'est vraiment problématique. Puis il y a aussi des choses, par exemple, concernant la personnalité, donc qui nous définit relativement bien. Le problème, c'est que la psychologie positive met un peu ça de côté, alors que la personnalité a un lien très fort en relation avec le bonheur, le bien-être. Donc il y a énormément d'études depuis très longtemps qui montrent que notre manière d'être, évidemment, ce qui nous caractérise, impacte fortement notre bonheur, notre bien-être. Et ce qui veut dire que selon qu'on est plutôt extraverti ou plutôt anxieux, on va plutôt vivre des émotions positives ou négatives, on va être inquiet, tendu, etc. Et la psychologie positive met un peu la personnalité de côté. Or, c'est un domaine très important.
Il y a un autre aspect qui est induit par la psychologie positive, c'est qu'à partir du moment où vous êtes heureux, ne changez rien. Pour être heureux, ne faites pas grand chose, puisque ce sont des activités intentionnelles, des petits exercices. Oui. Et du coup, il y a une espèce de et puis si vous n'êtes pas heureux, c'est de votre faute, donc allez culpabiliser dans votre coin, mais ne bougez pas. Il y a une espèce de déni de l'effort à faire parfois, bien ou sûr. De la volonté de vouloir aller de l'avant, d'évoluer et de continuer à avancer.
Oui, disons que les cliniciens en psychologie le savent très bien, ce qui est le plus problématique, c'est l'implémentation d'une action, l'implémentation d'une intention. Parce que forcément, vous demandez à n'importe qui, qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux ? Tout le monde va vous donner plus ou moins les mêmes réponses environ. Mais le gros problème, c'est d'implémenter l'intention. On sait ce qu'on doit faire pour être heureux. On sait ce qu'on doit faire pour ressentir des émotions positives et chasser ces émotions un peu négatives qui nous tracassent. Mais je veux dire, le problème, c'est le savoir, mais c'est le faire qui est très différent. Or, ça, c'est pas du tout pris en compte, et c'est vraiment ça le problème, parce que si c'était très simple d'implémenter des actions comme ça facilement, ça réglerait pas mal de problèmes en psychologie clinique, puisque là, on voit clairement qu'un des problèmes, c'est on peut constater, on peut identifier, on peut circonscrire la problématique d'une personne, facile, mais changer la problématique d'une personne, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a plein de facteurs sur lesquels on n'a pas une action nécessairement. Et donc, c'est tout à fait naïf de penser que, voilà, il suffit d'être heureux comme ça, si on le veut, et d'implémenter de petites actions comme ça, et on sera automatiquement heureux.
C'est naïf, et ça peut être dangereux quand c'est le seul outil utilisé dans le cœur de maladies de santé mentale ou de pathologies de santé mentale bien connues. Parce que... Là, vous parlez de la dépression, mais je trouve que parfois, ça va au même au-delà.
Mais disons, en plus, le problème, c'est que forcément, si la personne n'y arrive pas, ça va la culpabiliser énormément, puisque d'autres y arrivent. Et donc, si, avec maintenant, en plus, ces comparaisons qui sont tellement faciles sur les réseaux sociaux, de se dire, voilà, lui, il arrive, moi, pas, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est que je suis vraiment pas bien. Et alors, ça va encore plus l'enfoncer, quoi. Puisque, en effet, on voit que ça peut marcher chez certaines personnes, mais pas chez tout le monde, et ça, on ne le dit pas. Mm. Et ça, on oublie de dire que chez pas mal de personnes, ces actions intentionnelles ne fonctionnent pas, voire font un peu l'inverse, quoi. Parce que ce qu'il y a toujours d'éloquent dans ces études-là, c'est qu'on perd des sujets, évidemment, dans des retests après, quand on vérifie un peu l'effet de l'action. Et que si on perd 40% d'individus, ce qui est parfois normal dans des études, le problème, c'est qu'on ne sait pas, peut-être que celles-là ne sont pas parvenues et ont abandonné et sont peut-être très mal. Il y a aussi tous ces aspects-là des choses, et que, clairement, des personnes, et c'est dit parfois dans certains articles de psychologie positive, mais ce qui est délicieux, c'est que c'est mis un peu en petite phrase dans la discussion. Oui, quand on a un peu interviewé les personnes, si c'était parfois difficile de mettre en place certaines activités, certains ont dit que oui, mais malgré tout, la puissance des émotions positives les a sauvés de leur malheur, et voilà. Mais que, même s'ils reconnaissent avoir eu difficile par moment, mais on en parle très peu, quoi.
Si on allait et si on poussait le bouchon de là, il y aurait un aspect un peu magique, finalement, à tout ça. Et on tomberait dans un excès et des dérives qui pourraient être potentiellement dangereuses.
Bien sûr, parce que, je veux dire, avoir une société, évidemment, où la plupart des personnes sont heureuses, c'est ce qu'on voudrait, c'est ce qui devrait l'être. Quand on compare comme ça les niveaux de bonheur de pays, On se rend compte en effet que certains pays ont des scores beaucoup plus élevés que d'autres, même si là encore une fois il faut être très prudent, parce que c'est pas parce que par exemple les pays scandinaves là sont souvent un peu au top, avec la Suisse souvent qui est dauphine du classement, c'est pas pour ça que tous les Suisses par exemple sont heureux, quoi. Et là c'est quelque chose aussi qu'on oublie, c'est quand on prétend donc qu'un pays affiche un niveau élevé de bonheur, quoi, ça veut dire qu'ils sont tous heureux? Non, il y en a beaucoup qui ne le sont pas, mais en moyenne évidemment ils le sont, quoi. Et c'est un peu ça aussi qui est trompeur d'une certaine manière.
C'est à ça que vous nous invitez finalement à avoir une réflexion. Vous êtes optimiste pour l'avenir, pour un développement plus scientifique, de recherche scientifique plus robuste aussi sur la psychologie positive?
J'avoue que j'ai un peu des doutes, parce que le problème, il y a toute une machinerie derrière qui fonctionne bien. Et un public qui suit. Ce public-là n'a pas besoin nécessairement de preuves très fines au niveau scientifique. Mais alors, le problème, c'est qu'on vend un produit aussi. Il y a vraiment tout un commerce du bien-être qui se développe très bien. Et peu importe si les bases scientifiques sont bonnes. Et c'est un peu ça le souci. Je veux dire, il faudrait informer quand même les personnes. Et c'est un peu un des objectifs du livre que j'ai écrit. C'est quand même de... Parce que, vous voyez, traiter des gens ou leur proposer des activités comme ça intentionnelles, etc., soi-disant qui favorisent le bien-être, il faut quand même dire les choses comme elles le sont. C'est quand même mieux de dire, voilà, ça marche chez certaines personnes, mais pas totalement, ça élève seulement tout petit peu le bonheur, etc., d'être plus sincère dans les chiffres. Et ne pas vendre ça, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que toutes ces actions-là fonctionnent dans 60% des cas, donc il y a 40% chez qui ça ne fonctionne pas. Et ça, on ne le dit pas, évidemment.
Et on ne va pas explorer non plus loin.
Non, on ne va pas explorer pourquoi est-ce que...
Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas,
le message positif.
Oui, est-ce que ça fait éventuellement à ces personnes. Donc autant il n'y a pas d'études pour asseoir, autant il n'y a pas d'études pour voir éventuellement les dérives, vers quoi elles mènent, comment... Et c'est ça, des dangers.
Oui, parce que les personnes chez qui ça ne fonctionne pas, il est fort probable que ça amenait peut-être alors un recul de leur bien-être. Ouais. Parce que c'est vrai qu'une des... aussi quelque chose qui est très présent dans la psychologie positive, c'est cette fameuse adaptation hédonique qui prétend qu'en effet... on s'adapte un peu à tout, et que alors on doit revoir notre standard, etc. Et là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des personnes, premièrement, il y a des choses sur lesquelles on ne s'adapte pas, des événements négatifs de sa vie où certaines personnes ne s'adaptent pas, puisque l'adaptation hédonique prétend qu'on s'adapte aussi bien de situations positives que négatives. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, tous les messages de la psychologie positive sont vraiment trop simplistes, parce que ça cache des ombres qui devraient être montrées beaucoup plus.
Ne parlons pas des coachs de vie, hein, qui sont venus avec le mouvement.
Donc là, c'est vrai que oui, c'est encore autre chose, ça. Mais le problème, c'est que ça fait ombre à la profession de psychologue. Et ce qui est assez risible, c'est qu'ils sont formés, mais comme un couteau suisse. Vous sortez la grande lame pour le burn-out parental, vous sortez les ciseaux pour les techniques de drague, vous sortez le décapsuleur pour la prise en public. C'est vraiment un peu risible. Et c'est très, très nord-américain. Le problème, c'est que, alors quoi, votre coach est à côté de vous, mais quand il n'est plus là, vous êtes qui, au final?
Oui. Et puis surtout, ça a un coût.
C'est un coup et ça fonctionne très bien.
Ça fonctionne très bien, malheureusement. On vous remercie, Michel Ancène, d'avoir pris le temps de venir.